Nous allons reprendre l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 6. Dans notre confession de foi, selon le symbole des apôtres, il y a deux phrases que j'aimerais revoir avec vous ce matin pour expliquer notre texte d'aujourd'hui. Nous prononçons « Je crois en l'Esprit Saint » et ensuite « Je crois la Sainte Église universelle ». Je répète, « Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle ». Il faut faire une bonne distinction dans la façon de prononcer ces deux phrases. Je me rappelle encore, il y avait un pasteur retraité qui nous a appris à lire les textes bibliques et il était très très strict. Il nous disait, rien que dans la lecture, vous changez déjà le sens du texte. Donc il fallait faire très attention. Et je viens de le vérifier quand on prononce surtout cette symbole des apôtres. Souvent, on prononce un peu différemment. On entend parfois « Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle ». Non, « Je crois en l'Esprit Saint et je crois en la Sainte Église universelle ». Remarquez que devant l'Esprit Saint, il y a cette préposition « on ». Et même chose pour les deux premiers articles, parce qu'il y a trois articles du symbole des apôtres. L'article « Je crois en Dieu le Père ». Deuxième article, je crois en Jésus-Christ. Troisième article, je crois en l'Esprit Saint. Et quand nous prononçons cette partie sur le Saint-Esprit et l'Église, faisons bien attention de ne pas mettre la préposition en devant la Sainte Église universelle. Parce que nous croyons en l'Esprit Saint et non en l'Église. Vous voyez la grande différence ? Nous croyons en l'Esprit Saint, mais nous ne croyons pas en l'Église. C'est très important de le souligner, car ce n'est pas l'Église qui sauve, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est cet aspect justement universel de l'Église qui est dit dans notre texte d'Éphésiens. Paul a en quelque sorte ouvert les yeux des païens, c'est-à-dire nous, les autres nations, en dehors des juifs, que désormais le salut est pour tout le monde. Et les mots choisis par Paul pour exprimer cela sont vraiment extraordinaires. Voilà ce qu'il dit. Plan secret à révéler. Secret qui n'a pas été communiqué aux hommes, aux humains. C'est pour dire que le plan de Dieu d'ouvrir son royaume à toutes les nations qui existent dans le monde est plus qu'une révolution. C'est quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas penser que les autres nations pouvaient avoir part à ce royaume de Dieu parce que les Juifs croyaient que ça leur appartenait exclusivement. Même au sein de l'Église primitive, l'Église chrétienne, au tout début, beaucoup ont eu du mal à accepter cela. Et c'était un peu la cause du schisme au niveau de l'Église au départ. Ils avaient du mal à accepter que les hellénistes peuvent aussi venir dans l'Église. Ils avaient eu du mal à accepter d'appeler les chrétiens non-juifs comme frères et sœurs. Comment je peux appeler les autres frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, l'usage du mot frère en grec, adelphos, frère, avait une signification particulière. Normalement, on utilise le mot adelphos, frère, rien qu'aux frères et sœurs de même sang, de même origine. Les Juifs, entre eux, ils peuvent s'appeler frères et sœurs. Or, les évangélistes, les apôtres ont utilisé ce mot adelphos pour justement ses frères en dehors d'Israël. Alors, tous ceux qui viennent aussi en Christ deviennent frères et sœurs. Savons-nous alors la portée de cela, chers frères et sœurs? Être frère en Christ, jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où cette notion nous interpelle? La réponse se trouve au verset 6 de notre texte. Replongeons dans notre texte, Éphésiens chapitre 3, le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En analysant ce verset, je reviens encore une nouvelle fois au symbole des apôtres. Dans ce symbole des apôtres, l'accentuation sur la préposition « en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit-Saint » nous aide beaucoup à comprendre ce texte d'aujourd'hui. En effet, Paul parle que les non-juifs recevront aussi les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Et qui sont ces biens? Et nous le retrouvons dans le symbole des apôtres, dans la suite de « Je crois à la Sainte Église universelle ». Les voici, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Si vous avez l'arc-en-ciel dans vos mains, vous pouvez le voir dans le symbole des apôtres. Tous ces bienfaits que Dieu donne à son peuple, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Voilà les bienfaits qu'il nous donne. La communion des saints, parce que nous sommes membres du même corps. Il y a un dicton chez nous qui dit, j'essaie de le traduire littéralement, « Si la bouche a mal, les mains viennent à la rescousse pour la caresser. Et si c'est autour des mains qui sont brûlées, la bouche vient aussi pour souffler dessus. » Voilà la communion. Parce qu'on forme un même corps. Ils sont aussi appelés les saints, puisqu'ils sont unis en Christ, qui est le Saint de Dieu. Donc la sainteté n'est plus liée à l'origine, mais elle est un devenir. Nous devenons saints quand on est unis en Christ. On n'est pas saint de nature ou saint à cause de nos comportements ou de nos conduites. On est saint quand on est lié en Christ parce qu'il est le Saint de Dieu. Alors nous devenons aussi saints grâce à Jésus. Et puisque nous faisons partie des saints grâce uniquement à cette communion, nous sommes entrés en quelque sorte dans un cercle. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce cercle bénéficie la rémission des péchés. Lisons un peu le psaume 32, verset 2. Comment vous comprenez ce psaume que nous aimons tant? Le psaume 32 de David, verset 2. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable. Ça, c'est une autre version. Je vais le relire. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Souvent, on le comprend à tort et à travers. Mais j'ai repris cette version qui dit « Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable. » Il est coupable, mais il ne le traite pas coupable. La rémission des péchés est possible pour ceux qui sont en Christ, Donc ceux qui font partie de ce cercle, de cette communion, ils ne sont pas traités de coupables devant le Christ. Et si tu es en dehors du Christ, tu peux faire des choses extraordinaires. Pendant toute ta vie, il y a des gens vraiment extraordinaires qui ont fait des choses merveilleuses dans la vie. Ils ont aidé toute une population. Ils ont fait des bonnes œuvres. Mais ils ne font pas partie du cercle. Ils ne sont pas en Christ. Il ne fait pas partie de la communion des saints. Alors, désolé de le dire, toutes ces actions bonnes même effectuées par cette personne ne sont pas prises en compte. Vous voyez l'importance de faire partie de cette communion en Christ. Et enfin, qui n'est pas la moindre, la résurrection de la chair et pour la vie éternelle. Ça, les Juifs n'ont pas cela dans leur dogme. Et ça aussi, ça n'appartient qu'au christianisme. C'est typiquement nouveau et exclusivement chez le christianisme. J'ai essayé d'étudier pas mal de religions tout au long de mes études. Toutes les religions parlent beaucoup de vie de l'au-delà, bien sûr. Il y a ceux qui parlent de la réincarnation. Mais ce n'est pas la résurrection. La réincarnation n'est pas la résurrection. Toutes les religions parlent de monde des esprits, bien sûr. Mais seul le christianisme qui enseigne la résurrection de la chair. On ne va pas se réincarner dans une bête sauvage ou dans un quelconque animal. Mais ce sera la résurrection de la chair. Voilà donc les bienfaits, chers frères et sœurs, en Christ. Alors, tous ceux qui sont en Christ jouissent de tous ces bienfaits. Et rappelle-toi chaque fois que tu prononces la confession de foi, « Je crois en l'Esprit Saint ». Tout de suite, tu penseras à tous ces bienfaits, cette communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.